Bienvenue dans Habitat Futur. C'est le podcast qui propulse l'habitat de demain à l'écoute des initiatives d'aujourd'hui. C'est le podcast de celles et ceux qui s'intéressent à l'évolution de l'habitat, professionnel ou non, face à l'urgence climatique, à l'évolution des prix du marché et de nos modes de vie. J'invite des passionnés, des experts et des pionniers à venir discuter de leur vision et des solutions possibles dès aujourd'hui. Bonne écoute.
On a aujourd'hui un contexte environnemental et réglementaire qui fait que dans le choix de notre habitat, de son emplacement, de sa conception, de ses capacités de résilience, du choix des matériaux et solutions, ou même de son niveau d'autonomie, eh bien, il ne faut pas se tromper. Hein, parce que dans l'avenir, dans les années qui viennent, il y a des conséquences qui vont être dramatiques sur certains sujets.
Construire ou rénover, c'est le sujet de ce premier épisode. Pour répondre à cette question, j'ai invité Pascal Faucompré, éditeur et rédacteur en chef du magazine Build Green. Son parcours l'a amené directement à ce sujet, mais c'est avant tout un passionné. Et cette passion et cette rigueur vont nous permettre de dresser une des images les plus complètes sur le contexte environnemental et réglementaire actuel. Et bien sûr, de permettre, si c'est votre cas, de faire un choix.
Eh bien, bonjour Pascal.
Bonjour Cécile.
Je suis ravie de te recevoir au sein du podcast Habitat Futur et honorée aussi que tu puisses venir nous transmettre tout ce que tu connais, tout ce que tu vois chaque jour et étudies également. Alors, dans le podcast Habitat Futur, on cherche à se dire, ok, qu'est-ce qu'on fera, comment on habitera dans le futur, enfin ce avec quoi on habitera aussi, et comment on peut s'adapter aux crises financières, également environnementales, etc. Est-ce que toi, tu peux nous faire un petit point, un petit contexte sur ce qui se passe aujourd'hui dans le bâtiment, dans la construction, vis-à-vis de ton regard d'expert?
Bien sûr, merci déjà de ton invitation. Ce que je propose d'aborder là, c'est le contexte environnemental et réglementaire, en quatre points. Le premier point, c'est le contexte climatique, ensuite le manque de ressources, ensuite l'impact sanitaire, et on finira par le contexte réglementaire qui est aujourd'hui très contraignant et qui demande aussi à s'adapter en fonction de ça. Donc sur le contexte climatique, on le connaît tous aujourd'hui, les dernières études montrent qu'on va dépasser en France en tout cas 1,7 degré avant 2050, de moyenne sur l'année. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences, et notamment des phénomènes climatiques, des tempêtes, des inondations, des orages, de la grêle, des canicules, des incendies. Donc ça nous oblige à revoir un petit peu la conception des biens, hein, qu'ils soient beaucoup plus durables, qu'ils soient... Le choix des emplacements va aussi avoir son importance. Mmh. Nous allons aussi aller vers plus de sécheresse, donc aussi un manque d'eau, de plus en plus tôt dans l'année, de plus en plus tard. On le voit, il y a encore des départements en France aujourd'hui, on est au mois de novembre, qui sont encore en période de sécheresse, avec... au niveau de la préfecture, des réglementations qui imposent de réduire ses consommations. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Sur l'année 2022, c'est assez exceptionnel, mais on peut se dire que ça peut être la norme dans les années à venir.
C'est un petit avant-goût.
Effectivement. Ouais. C'est un défi donc pour l'approvisionnement de l'eau. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par exemple, en Belgique, on oblige déjà depuis une dizaine d'années à, dans chaque construction, à prévoir la récupération d'eau de pluie. En France, c'est pas le cas. On l'a pas prévu dans la dernière réglementation, ce qui est dommage, parce que pourtant, ça a des conséquences aussi sur l'impact de l'utilisation de l'eau courante. Ça a aussi des conséquences sur le bâti. On bat chaque année des records sur les assurances, sur la prise en charge des problèmes liés au retrait des argiles.
Oui, retrait et gonflement des argiles, voilà, argiles. Tout à fait,
le RGA. Et donc, ça aussi, ça a un impact énorme sur le coût des assurances. Il y a déjà des assurances qui pensent ne plus assurer des biens dans certaines zones en France. Hein. Donc, ça a aussi des conséquences de ce côté-là. Et ça a aussi une autre conséquence plus internationale, On le voit dans l'actualité régulièrement, c'est que de plus en plus de gens se trouvent dans des zones qui sont des zones mortelles, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre dans ces zones-là, parce qu'il fait plus de 50 degrés une grande partie de l'année, et donc ils migrent vers d'autres pays. Alors, il y a aussi des problèmes d'inondation, hein, on l'a vu sur le Pakistan, il me semble, cette année. Donc, il y a de fortes migrations, et où vont ces gens ? Ils vont aller vers des pays occidentaux, donc ça nécessite aussi, nous, de pouvoir accueillir ces gens. On est responsable un peu, quelque part, aussi, vis-à-vis de ces personnes-là, donc c'est un gros dilemme, c'est un problème politique aussi, donc on aura une pression migratoire qui sera de plus en plus importante. Donc ça veut dire que ça va engendrer aussi des surcoûts, puisqu'on a d'un côté un manque de foncier, on a un manque de matériaux, on va le voir tout de suite après, et donc ça va générer aussi des surcoûts sur la construction ou même la rénovation. Le deuxième point du contexte d'aujourd'hui, on appelle ça dans les limites environnementales, c'est le manque de ressources. On sait très bien aujourd'hui que nous sommes dans un monde fini où les ressources ne sont pas inépuisables. Les ressources qui aujourd'hui arrivent à leur terme.
Justement, on parle beaucoup de recyclage. Quand tu dis on manque de ressources, est-ce qu'on ne peut pas recycler tout matériau ?
Alors, tout n'est pas recyclable, d'une part, et deuxièmement, on ne recycle pas à l'infini. Donc ça veut dire qu'on a, de toute façon, à un moment donné, on va manquer de ressources sur certaines choses.
La chaîne s'arrête, ouais.
Voilà, tout à fait. Donc ça génère aussi des conflits internationaux, géopolitiques. On le voit avec la guerre en Ukraine, faut pas se cacher derrière. La Russie veut récupérer certains matériaux qui sont extraits dans ces zones-là. Donc ça impacte sur la disponibilité, ça impacte sur les cours des matériaux. On atteint aussi des pics de criticité entre nos besoins et nos ressources sur de nombreux matériaux. On le voit dans le bois, on l'a vu. Alors c'était plus le fait qu'il y a eu une grosse demande après la sortie du Covid, mais c'est déjà le cas pour le sable, pour le pétrole, pour certains métaux rares. Le sable, c'est une catastrophe, et aujourd'hui il y a une mafia dans le monde entier de gens qui vont extraire du sable où il ne faut pas. Pour pouvoir fabriquer du béton. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Ça va être le cas aussi, certainement, sur le lithium pour les batteries, certains matériaux pour les panneaux solaires. On pense au cuivre aussi, notamment, pour les éoliennes. Mais le cuivre aussi est utilisé beaucoup dans le nucléaire, donc ça, c'est pas non plus négligeable. On a aussi des matériaux qui demandent beaucoup d'énergie à fabriquer. Dans les matériaux de construction, on sait que la brique de terre cuite, par exemple, le ciment, les laines minérales sont des matériaux qui demandent énormément d'énergie.
Ouais.
C'est un point qu'il faut aussi prendre en compte. Il faut transporter ces matériaux. Donc, si on a moins de pétrole, comment on fait ? Est-ce que ça va pas poser quelques problèmes ? Et tu parlais du recyclage, on a effectivement un intérêt à recycler certains matériaux, mais on en a moins sur d'autres. Il y a des matériaux qui demandent trop d'énergie à recycler.
Oui, par exemple, une peinture qui est posée, elle est posée à vie, quoi.
Tout à fait, oui, une peinture, mais aussi certains isolants en mousse polyuréthane, par exemple, aller recycler ça une fois que c'est collé.
Oui.
Vous bousillez le support et l'isolant est pas du tout recyclable. Donc c'est aussi dans le choix au départ extrêmement important de faire les bons choix de matériaux. On a aussi dans les ressources, on a un besoin énorme en énergie. Et aujourd'hui, on essaye de transférer le plus possible vers l'électricité. Donc notamment, je pense à l'automobile. On veut remplacer le pétrole par l'électricité.
Oui, quand tu dis « on », c'est une des décisions politiques.
Politique. Ouais, ok. Complètement politique. Alors, il y a des lobbying derrière qui poussent effectivement aussi. En France, on sait très bien que le lobbying d'EDF pousse vers le nucléaire. depuis toujours, ils ont été contre les énergies renouvelables, ça a été prouvé, et malheureusement, on voit les conséquences aujourd'hui, parce que on va manquer cet hiver 2023 certainement d'électricité, on va être obligé de l'importer, ou on aura des blackouts. Donc ça génère aussi des hausses de coûts, alors sur notamment sur le chauffage et sur l'eau chaude, parce que l'énergie, c'est pas uniquement l'électricité, mais ça génère aujourd'hui aussi ces manques de ressources, des hausses de coûts. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? C'est qu'aujourd'hui, on va rechercher à être de plus en plus autonome. Donc, on va vouloir mettre des panneaux photovoltaïques, et puis on va améliorer aussi son confort thermique. Et pas seulement pour l'hiver, mais aussi pour l'été.
Surtout pour l'été, j'imagine même.
Oui, les deux, parce que on va avoir aussi l'hiver des pics de froid aussi, et il faudra qu'on ait des maisons qui soient bien isolées pour éviter de trop consommer. Donc ça, c'est l'aspect manque de ressources. Après, on a l'impact sanitaire. On en parle assez peu dans les médias, mais aujourd'hui, on ne dit pas assez, il y a beaucoup de matériaux qui polluent l'environnement à leur fabrication comme à leur usage. Et sans parler du recyclage derrière, parce que la pollution au moment du recyclage, tous les matériaux à base pétrochimique, derrière, ça, forcément, quand on doit les recycler, ça demande beaucoup d'énergie et ça pollue aussi l'environnement, et pas seulement le CO2, parce que aujourd'hui on parle beaucoup du CO2, mais il y a d'autres polluants qui viennent attaquer l'environnement, mais aussi nos intérieurs. Donc, dans tous les revêtements, dans les isolants, vous avez des polluants, plus ou moins de polluants. Donc, que ce soit des adjuvants, qui peuvent être notamment pour l'anti-incendie, pour limiter les limiteurs d'incendie, contre les rongeurs. Donc, vous avez des adjuvants qui sont ajoutés dans ces isolants, qui sont assez toxiques. Vous avez des colles, et puis tous les COV, donc les composants organiques volatiles. Donc, on a un cas typique qu'on a connu dans les années, entre les années 50 et 80, on a retrouvé de l'amiante partout, dans plein de matériaux, dans la toiture notamment, dans les toitures fibre-ciment, dans les revêtements.
Ne sachant pas que c'était à l'époque un gros problème.
Quoi. Tout à fait. Dans les isolants. Et on se retrouve aujourd'hui avec une quantité énorme d'amiante dans nos habitats, dont on ne sait pas quoi faire. Et qui prendre en charge, à quel coût? C'est une véritable catastrophe, l'amiante. Je suis un petit peu le sujet de près, et c'est vrai que si l'État ne veut pas mettre de moyens sur cette problématique-là, on va avoir une augmentation des cancers, puisque cancers liés à l'amiante, c'est entre 30 et 40 ans, et ce type de cancers sont très très compliqués à traiter. Donc, voilà, ça c'est un cas typique, mais on va avoir dans les années à venir un autre cas qui est en train de commencer à poindre, c'est la silice dans le sable, que les maçons ont utilisé dans le béton, ou qu'on a utilisé aussi dans les laines minérales, cette silice-là, elle est aussi cancérigène. Ah on oui, a le cas aussi des phtalates dans les plastiques, c'est très volatile, c'est un COV, donc on le retrouve assez régulièrement dans nos intérieurs, dans nos environnements intérieurs. Ouais. Donc ça fait partie aussi des points dans les choix stratégiques de construire ou rénover.
Oui, parce qu'on voit qu'en fait, plus le matériau est transformé finalement, moins on maîtrise sa composition, puis on ne sait pas quelles sont les futures conséquences, parce que des fois on peut le savoir, mais on peut l'ignorer aussi, tout simplement.
Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de contrôle, on a de plus en plus d'obligations légales qui permettent de limiter l'impact de ces matériaux, mais scientifiquement, on étudie que moins de 1% des matériaux, des conséquences sanitaires des matériaux qui sont innovés aujourd'hui. Moins de 1%. C'est-à-dire qu'on innove continuellement de nouveaux matériaux, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences environnementales et sanitaires sur la santé de ces matériaux. Donc, comment Comment on peut avoir la certitude que l'utilisation de certains matériaux ne vont pas poser problème pour notre santé plus tard? On ne sait pas.
Donc il y a plusieurs. Ouais. Et en fait là, donc juste si je récapitule, donc on a cette phénomène de santé, de soins en fait environnemental aussi, que ce soit pour l'homme ou pour la nature. Et également on a ce problème, on va dire de se dire comment on construit mieux pour justement avoir des performances thermiques qui correspondent à demain.
Donc, alors il y a un dernier point.
Ça se rajoute quelque chose d'autre.
Okay. Oui. Après il y a l'aspect réglementaire, mais sur l'aspect sanitaire, il y a un dernier point qui n'est pas négligeable aussi et qu'il faudra prendre en compte dans les années à venir, c'est le réchauffement climatique qui génère lui-même des maladies. Par exemple, les moustiques sont la première cause de mortalité animale avec la dengue, le chikungunya, le paludisme, le Zika. C'est vraiment la première cause. Le moustique est le plus dangereux et l'animal le plus dangereux sur la planète. Hein. C'est celui qui génère le plus de morts. Et on a aussi des nouveaux virus qui arrivent avec le réchauffement climatique, le réchauffement du permafrost. Ça génère de nouveaux virus donc qui viennent aussi dans notre environnement quotidien et donc qui génère de nouvelles maladies. Il y a la déforestation, on a de fortes chances que le Covid vienne de d'une déforestation en Chine. Voilà, donc on a des animaux qui se retrouvent malheureusement proches de l'homme et qui transmettent des virus et des bactéries qui sont aussi à la fois mortelles ou très contagieuses. Et donc ça aussi, dans l'aspect sanitaire de nos habitats, c'est aussi important de pouvoir bien ventiler, notamment quand on est en collectif. On peut se retrouver aussi avec des virus qui se transmettent d'appartement en appartement. Donc ça, c'est aussi un impact important. Donc tout ça, on le retrouve dans l'air intérieur, mais aussi on le retrouve dans les eaux usées. Donc ça repart dans l'environnement, ça peut revenir aussi dans l'eau courante. On a aussi tous les polluants qui sont dans l'eau courante. Donc ça peut être les pesticides qu'on retrouve aujourd'hui. Beaucoup. Alors certains sont traités, aujourd'hui il y a des choses qui sont traitées, mais tout n'est pas traité, comme je disais tout à l'heure, comme on ne connaît pas tout l'impact sanitaire de tous les produits chimiques, eh bien on a aujourd'hui des produits qui circulent dans l'eau courante, dont on ne sait pas quelles sont les conséquences sanitaires dans les années à venir. On les découvre d'année en année, au fur et à mesure des études qui sont faites, mais c'est des études qui sont longues et qui demandent à être contrôlées, vérifiées. Donc, c'est aujourd'hui un vrai problème. Donc, ça, c'est l'aspect sanitaire. Et le dernier point, je dirais le plus contraignant et celui sur lequel on ne peut pas malheureusement échapper, c'est l'aspect réglementaire. On a eu plusieurs lois et réglementations qui sont arrivées, qui changent la donne aujourd'hui. L'une des dernières et l'une des plus impactantes, c'est la loi climat et résilience, avec deux points qui sont extrêmement importants. C'est le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met une zone constructible en place, il faut compenser par une zone naturelle ou humide. Donc ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de zones constructibles. Donc on va limiter déjà les constructions tertiaires et notamment de tout ce qui est magasins, supermarchés, etc. Donc ça c'est acté. Mais sur l'habitat, ça va être aussi un problème dans les années à venir. Donc il va y avoir de moins en moins de foncier disponible. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, puisque ça va avoir un impact sur le prix du foncier. La plupart des plans locaux d'urbanisme prévoient d'ailleurs une nette diminution des terrains constructibles, hors agglomération. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup sur les dents creuses, qu'on appelle, dans les zones urbaines. On va densifier un maximum. Mais par contre, à l'extérieur, en dehors des hameaux, dans les campagnes, il y a beaucoup de hameaux. Là, on va pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Mais en dehors de ces hameaux, tout va passer en zone naturelle ou agricole. Et donc, ça va être compliqué de construire dans des endroits où on voudrait être au calme, où on voudrait être isolé de tout bruit ou toute pollution. Alors c'est quelque part, c'est une bonne chose pour la préservation de la biodiversité, c'est quand même pas rien, mais ça demande aussi de revoir complètement l'urbanisation des villes. Tu voulais peut-être dire quelque chose là-dessus ?
Oui, parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on serait très, très bétonné d'un côté et puis très naturel de l'autre. Il n'y a pas de, plus de mélange possible. Enfin, est-ce que cette...
C'est pour ça que... C'est pour
ça, est-ce que ça nous pousse à ça, en fait ? Est-ce que la réglementation...
C'est ce que je dis à l'instant, c'est qu'il faut qu'on revoie l'urbanisation des villes. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on prenne en compte la végétalisation de ces villes.
Bien sûr.
Donc c'est aussi un travail là, des urbanistes hein, et puis des politiques d'avoir une stratégie de revenir à plus de végétalisation dans les villes parce qu'on a besoin d'oxygène, parce que la végétalisation joue aussi sur les îlots de chaleur. Pour limiter l'impact des canicules. Donc, on débétonisait aussi un maximum, débitumiser aussi un maximum. Ça fait partie des stratégies à avoir dans les villes. Mais la densification est malheureusement inévitable. On sera obligé de densifier un peu. Alors, si tu veux, je peux préciser une chose là-dessus. On a relayé une étude qui avait été faite aux États-Unis par un cabinet d'architectes, je crois, sur l'urbanisation. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des grandes tours en ville ou des petits immeubles ? Quel est l'impact écologique de l'un et de l'autre ?
Ouais.
Et l'étude avait été claire. Hein, ils avaient pris comme exemple Paris, qui est une ville très densifiée, mais qui n'a pas de grands immeubles, de grandes tours.
Oui, comme à New York, par exemple.
Voilà, ou voilà, effectivement, à Manhattan, où on a que des... retraite center partout maintenant. Donc, c'est voilà. Et sauf que tous ces tours-là, elles nécessitent un besoin en matériaux plus important en mètre carré, parce qu'il faut que ça soit solide. Ça nécessite des technologies aussi qui sont plus importantes pour la ventilation, pour les ascenseurs, pour le chauffage, etc. Et donc, en termes de ressources, ces bâtiments-là sont beaucoup plus consommateurs que des petits bâtiments de 4-5 étages. Qui, eux, nécessitent moins de ressources et donc ont un impact moins important. Donc là aussi, dans le choix de l'urbanisation des villes, faire des tours n'est pas non plus la solution. C'est pas ça qui va résoudre le problème écologique. Donc cette étude, je te donnerai le lien si tu veux pour le podcast et vous retrouverez les données là-dessus, mais c'est vrai que Paris est un bel exemple pour ça parce que c'est bien densifié, des immeubles de petite hauteur et ainsi l'impact est moins important.
Oui, ça reste aussi humainement et socialement peut-être plus à taille humaine. Ouais.
Effectivement aussi. Il y a l'aspect aussi effectivement social qui est extrêmement important. Ouais. Dans la loi climat et résilience, on a un autre point aussi qui est extrêmement important, c'est que dans les années à venir, on va avoir une obligation de rénover pour louer un bien. S'il est classé, par exemple, G dès l'année prochaine, c'est passoire thermique, en fait, hein. Dès l'année prochaine, un bien qui est classé G, en DPE, donc sur l'aspect énergétique, il devra être rénové. Donc, ça veut dire que, ensuite de suite, hein, puisqu'on va avoir en 2025 F, en 2028 E et en 2034 D. Ouais. Donc, on parle aussi de l'appliquer sur les locations touristiques, parce que certains se disent, si je peux plus louer en location annuelle, je vais louer en touristique, faire du Airbnb. Et non. L'État est en train de réfléchir à un décret supplémentaire dans la loi climat et résilience pour, évidemment, limiter ce genre d'abus. En plus, on a une obligation qui est en train de se préparer au niveau européen, une obligation de performance énergétique à la vente d'un bien. Donc là, je parlais de location, mais là, ça va être maintenant à la vente d'un bien ou à un changement de destination.
Une espèce de taxe
Non, c'est une obligation. Ça sera une obligation. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudra, comme pour la location, il faudra un niveau de DPE de E, F ou G en fonction des années. Ça va être progressif aussi. Enfin, à l'inverse, ça va commencer par G, F, E, et ça va remonter jusqu'à, je pense, C au minimum. Ce qu'on appelle le BBC aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, ces biens-là devront avoir une performance énergétique minimum. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un impact aussi sur le coût de l'immobilier. C'est-à-dire que tous les biens qui se retrouve avec des cotations à Angers, F, etc., et bien, ils vont se retrouver sur le marché avec une valeur moins importante, où ils seront plus facilement négociables, parce qu'il y a des travaux à faire dedans.
C'est une bonne nouvelle parce que bon, ça permettrait effectivement de au fur et à mesure, quelque part, un peu mettre la marche forcée sur la rénovation énergétique, surtout sur les biens qui sont loués dans un premier temps et puis ensuite vraiment en propriétaire. Mais alors, est-ce que c'est possible tout ça aussi? Je me pose la question. Par exemple, il y a des immeubles qui sont patrimoniaux, alors, j'imagine.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui, c'est que tout ce qui est en copropriété, et en plus il y a des locataires, souvent, tout ce qui est en copropriété, moi, qui est régulièrement, alors je suis à la campagne, hein, mais je vais régulièrement sur Paris, quand j'arrive par le TGV, je vois tous ces immeubles en banlieue, ou même autour de Paris, tous ces immeubles qui sont d'une qualité très médiocre au niveau énergétique. Je me demande comment on va faire pour pouvoir tout rénover, ces immeubles-là. Donc il y a un travail de massification qui est fait, type Energiesprong et d'autres études qui ont été faites aussi par d'autres concepts de ce type-là, qui permet de massifier avec une isolation extérieure ce type de bien. Mais après, il faut une acceptabilité de la part des propriétaires. Il faut aussi des aides, puisque ça coûte très très cher ce type de rénovation. Hein, l'ITE, l'isolation par l'extérieur, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais c'est ce qui est le plus efficace. Donc ça veut dire que on risque d'avoir, en termes de délai, beaucoup de biens qui vont se retrouver vides, parce que ils ne seront pas aux normes pour être vendus ou pour être loués. Et c'est un peu le risque. Bon, maintenant, si on n'impose pas...
Abandonner peut-être même. Est-ce que c'est...
Oui, ou abandonner, oui. C'est déjà le cas, mais ça c'est souvent des problèmes de succession. Effectivement, on risque d'avoir des biens qui sont de plus en plus abandonnés et squattés, du coup, et donc avec tous les risques qu'on a derrière. C'est important qu'on aille vers des biens qui soient d'un DPE classé A, B, C au maximum, parce que ça limite évidemment l'impact sur la consommation d'énergie, mais c'est pas suffisant, en fait. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, hein, et notamment l'impact carbone des rénovations. Si on choisit des matériaux qui ont un impact carbone important, au final, on n'aura pas gagné grand-chose sur l'analyse de cycle de vie du bien. On n'aura pas gagné grand-chose. Donc, il faut aussi avoir une attention particulière sur le type de matériaux qu'on va utiliser pour... rénover. Je vais terminer sur l'aspect réglementaire, sur deux points qui sont aussi récents et qui ont aussi leur impact. Au niveau de la construction, depuis le 1er janvier 2022, on a une nouvelle réglementation, la RE 2020.
Donc ça, c'est pour tous les bâtiments neufs, hein, c'est ça ?
En neuf, tout à fait.
Ouais,
ça inclut aussi les bâtiments tertiaires, ça inclut aussi le collectif, qui était exclu de la RT 2012 depuis longtemps, ce qui était inacceptable d'ailleurs. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de bâtiments collectifs qui ont des performances énergétiques médiocres, parce que on n'a jamais appliqué la RT 2012 sur ces bâtiments-là. C'est assez scandaleux quand même. Donc, sur la RT 2012 justement, quel était le concept de la RT 2012 ? C'était de dire, il faut qu'on ait des bâtiments qui consomment le moins possible. Donc, on étanchéifiait, on isolait, et on arrivait à réduire les consommations d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'usage. Mais avec la nouvelle réglementation RE 2020, aujourd'hui, on prend en compte un autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'impact carbone. Donc, des matériaux utilisés, donc ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, on va regarder du côté de la fabrication de ces matériaux jusqu'à leur recyclage, quel est leur impact environnemental. Et ça fait complètement changer notre façon de construire, puisqu'il faut tout prendre en compte, aussi bien la fabrication, le transport, la mise en œuvre. Il y a certains matériaux qui demandent beaucoup plus de délai dans la mise en œuvre, et beaucoup plus de matière dans l'entretien. Et aussi, dans certaines solutions, on a un entretien qui est extrêmement important. Et on en a déjà parlé dans le recyclage, évidemment. Donc on s'oriente je pense qu'on va aller vers de plus en plus de matériaux, puis on n'a pas le choix de toute façon, à faible impact carbone, et les matériaux biosourcés sont bien placés pour ça.
Ouais. Est-ce que le béton reste encore en...
Oui, le béton, effectivement.
En course, oui, c'est bon.
Alors, le béton... Si tu
alors, ils sont la formule a été, j'imagine, améliorée pour répondre à cette...
Alors, il y a plusieurs choses sur le béton. Il y a son aspect, il y a le ciment, la fabrication du ciment, demande énormément d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change pas la méthode de fabrication du ciment. On change le type d'énergie qu'on va utiliser. Mmh. Donc, au lieu d'avoir des chaufferies au gaz, au pétrole ou à je ne sais quelle autre énergie fossile, on va changer le type d'énergie, on va mettre des énergies renouvelables, on va faire de la biomasse, on va mettre des éoliennes, et donc on va réduire la consommation d'énergie. Par contre, on va prendre cette énergie-là, on va la prendre à ce qui pourrait servir à des particuliers, à d'autres entreprises. Donc, au final, on fait juste un transfert d'énergie. Et donc, ces kilowatts-là, kilowatt-heure, ou même gigawatt-heure, qui pourraient servir à des particuliers, notamment en période hivernale,
pour
faire du ciment. Donc, c'est pas forcément
peut-être
la solution.
Dommage.
Je pense qu'il faut aller vers d'autres matériaux, intégrer un petit peu plus de bois. Alors, c'est pareil, on pourrait discuter sur le bois longuement, mais ça a aussi son impact environnemental. Dans ces limites, dans ce contexte-là, puisque il y a une étude du Stockholm Resilience Center qui nous donne les 9 limites planétaires sur lesquelles on a déjà dépassé 6 limites. Donc le changement climatique, l'érosion de la biodiversité avec 70% des espèces qui sont en chute, le cycle de l'azote et du phosphore qui sont extrêmement importants, notamment dans l'agriculture. Les changements d'utilisation des sols, la pollution, on en parlait tout à l'heure, comme le plastique c'est une calamité pour les océans, et donc la biodiversité derrière, et l'utilisation de l'eau douce. Donc sur ces 6 limites, on a déjà dépassé, et certaines sont même irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus régénérer suffisamment d'eau de source ou des océans qui soient propres dans les années à venir, parce qu'on a dépassé des limites. Encore des limites où on n'a pas dépassé, il y a l'acidification des océans, il y a la dégradation de la couche d'ozone.
Ouais.
Ça, on arrive à peu près à maîtriser en ayant réduit certains gaz. Mais par contre, on a aussi des risques sur l'augmentation de certains aérosols dans l'atmosphère. Donc, on a aujourd'hui un contexte environnemental et réglementaire qui fait que dans le choix de notre habitat, de son emplacement, de sa conception, de ses capacités de résilience, du choix des matériaux et solutions, ou même de son niveau d'autonomie, eh bien, il ne faut pas se tromper. Parce que dans l'avenir, dans les années qui viennent, il y a des conséquences qui vont être dramatiques sur certains choix.
Et selon toi, là on parlait donc de cette RE 2020 et des limites, est-ce que c'est compatible déjà? Est-ce qu'on est compatible ou est-ce qu'on c'est sur le chemin? C'est une marche pour arriver à justement respecter ces limites. Est-ce que si on construit tout le temps en RE 2020, que c'est la dernière réglementation, peut-être, je ne sais pas, on est bon, déjà.
Alors, si tu veux, aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on a seulement 1% de renouvellement du parc neuf par an. Donc, ça représente à peu près 300 000 constructions par an, pour cette année. À peu près 300 000, puisqu'on est en chute libre, on était à 380, 400 000 dans les années 2010, 2000, début 2020, et 100 000 maisons, à peu près pour cette année, qui sont en l'état actuel de permis de construire.
Ok.
Donc,
c'est pas beaucoup.
Est-ce que ça suffit, voilà, pour réduire notre impact environnemental? Non. Donc ça, c'est une première réponse à ta question. On a aussi 9% de nos logements qui sont vacants en France. Ça fait à peu près 3 millions de logements qui sont vacants et qui, aujourd'hui, pourraient être, je dis bien pourraient, parce qu'il y a des paramètres qui font qu'on peut pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, sur la rénovation. Et à Paris, c'est 17%, hein. C'est pas rien quand même. Hein. C'est 17%.
Ouais, en fait, ce sont des personnes qui ont qui sont propriétaires de ces biens et qui ne les utilisent pas ou qui les...
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que la location est plus rentable à un moment donné parce qu'ils en ont eu marre de gens qui ont détruit leurs biens, qui ont pas payé leur loyer, etc. Donc, ils pourraient le remettre sur le marché, hein. Mais la grande majorité de ces biens, c'est des problèmes de succession.
D'accord.
C'est la grande majorité.
C'est quand même un gros chiffre.
Pour des... C'est un gros chiffre, oui. Ouais. C'est un gros chiffre. Et je pense qu'il va falloir que l'État s'y attaque grandement. Moi, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps parce que il y a trop de blocages. Moi, j'ai été dans l'immobilier, hein, je l'ai vu, hein, je voyais des biens qui étaient sur le marché. Quand je me renseignais, on me disait, bah non, ça bloque à cause de la succession, on peut pas le mettre en vente. On peut... Et j'ai eu des dossiers, j'ai même eu à traiter des dossiers jusqu'à 40 successeurs. Et c'était,
ah oui.
Ah oui, non.
Mais c'est difficile de se mettre d'accord à 40, quoi. Ouais.
Voilà, tout ouais. à fait. Donc c'est très compliqué à un certain niveau. Donc je pense qu'il faut obliger et imposer des limites, des délais, de dire si vous entendez pas au bout de 2 ans, le bien revient à la main du notaire, il le met en vente et après il y a un partage de faire équivalent pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Je pense qu'on sera obligé d'en arriver là à un moment-là parce que plus ça va, plus les successions sont compliquées. Et donc il faut faire avancer les choses parce qu'il y a trop de logements vacants en France.
En plus, c'est complètement faisable avec l'organisation notariale qui est en France.
Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Et c'est vraiment les notaires qui doivent prendre en main ce problème-là. Mais il faut une réglementation et je pense qu'il pourrait y avoir des manifestations si vraiment ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est très délicat. C'est très délicat, mais il faudra y passer. Alors, sur la rénovation, il y a une étude qui a été faite par l'ADEME en 2019, qui comparait l'impact d'une construction à celui d'une rénovation de niveau BBC, donc bâtiment basse consommation. Et le résultat, il est vraiment sans appel. La quantité de matériaux à mobiliser en tonnes par mètre carré dans une construction neuve est 40 à 80 fois plus importante pour le neuf que la rénovation. Donc c'est vraiment là où on a quelque chose à faire. Hein. La question aujourd'hui, elle se pose plus. Hein. C'est l'impact environnemental, il est extrêmement important sur la construction, donc il faut aller vers limiter l'usage des ressources en rénovant.
Et alors, justement, cette question de rénover, construire, bon, j'imagine que si la construction a un tel succès, c'est que quelque part, on s'y retrouve en termes de facilité, probablement, parce que bon, bah, tout est neuf, on choisit ce qu'on fait. Mais en termes de coûts, est-ce que, enfin, moi, j'ai quelques souvenirs où quand on avait une rénovation sur un projet, c'était là où on en payait presque plus cher une rénovation. Une construction, en fait, au prix au mètre carré. Comment ça se fait qu'on a un tel phénomène ? C'est quoi ? C'est l'organisation ? C'est le BTP qui n'est pas organisé pour bien rénover ? Est-ce que c'est complexe ?
Oui, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce que je voudrais faire, c'est faire une petite comparaison entre ce qui pose problème dans la construction, les avantages, et puis aussi les inconvénients, les avantages de la rénovation. Donc, et ouais. Je vais aborder ce problème du coût dans cette démonstration, hein, si je me permets. Donc la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est de trouver un emplacement idéal. Donc souvent parce que par rapport à notre travail, par rapport à l'environnement social, par rapport aux loisirs, par rapport aux magasins, aux boutiques, proches, ouais. On voudrait un emplacement idéal. Mmh. Et comme on le disait tout à l'heure, la disponibilité du foncier va être de plus en plus compliquée. Mmh. Donc ça veut dire que trouver l'emplacement idéal pour construire, ça va être compliqué. En plus, ça participe à l'artificialisation des sols. Hein. C'est clair que quand on met une dalle béton, on fait disparaître des zones humides, on fait fuir la biodiversité. Donc ça a aussi un impact sur l'environnement. La construction aussi, donc des coûts financiers cachés, on n'y pense pas toujours, mais aujourd'hui, les communes imposent de plus en plus la construction. Donc dès la construction, vous avez des taxes sur le permis de construire, sur les raccordements, et toutes ces taxes aussi se rajoutent au coût caché financier. Donc ça, c'est aussi dans la construction, ça fait partie des points problématiques. La valorisation aussi des biens est de plus en plus compliquée, puisque il faut prendre en compte le DPE, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait dès le départ conçu un bien qui soit de bon niveau pour être sûr de bien pouvoir le revendre dans 10, 15 ou 20 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et il y a autre chose qui fait la différence avec la rénovation, c'est que on n'a pas d'aide financière. Donc c'est ce qui va répondre un petit peu à ta question tout à l'heure. Il n'y a pas d'aide financière quasiment sur la construction. Alors que sur la rénovation, on peut travailler sur la rénovation thermique avec des aides financières et prendre en charge une grande partie de ces travaux. Par contre, la construction, comme tu me l'abordais tout à l'heure, ça présente quand même quelques avantages. Sur le choix de la conception. Donc on peut travailler sur la surface. Alors ça, sur la surface, je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus, mais c'est important la surface d'un bien dans la construction. Plus ton bien est grand, plus tu vas avoir besoin de matériaux, plus tu vas avoir besoin de consommer de l'énergie pour le réchauffer ou le refroidir. Donc,
Et du temps pour l'entretenir aussi.
Du temps aussi pour l'entretenir, donc ça fait effectivement partie du quotidien. Mais c'est vrai que dans sa conception, dans l'orientation, c'est vrai que c'est l'atout, il est là. Sur la construction, c'est beaucoup plus facile de travailler là-dessus. Et sur l'aménagement intérieur aussi, pour travailler un peu sur la circulation, sur les équipements, pour qu'on ait notamment une pièce pour le télétravail, et travailler aussi sur tous les aspects sanitaires au niveau qu'on parlait tout à l'heure. La construction est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre qu'une rénovation. Une rénovation, c'est souvent assez compliqué à gérer, ça demande beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est aussi... aujourd'hui, on a des outils en construction, notamment tout ce qui est hors-site, qui nous permettent de construire des maisons en quelques jours, et il y a toutes les finitions à faire. Alors, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, les finitions, mais on va beaucoup plus vite dans la construction que dans la rénovation, souvent. Alors après, tout dépend du niveau de rénovation qu'on a besoin de faire, mais ça a aussi un atout en construction. Un autre atout aussi de la construction, c'est la garantie des travaux. Quand on fait construire, on fait appel à un architecte, on fait appel à un constructeur, à un CCMiste, et bien ce constructeur-là, il va garantir ses travaux pendant minimum 10 ans. Et bien c'est pas rien, on a quand même quelque part certaines garanties qu'il y a pas. S'il y a des problèmes derrière, ben on peut se retourner contre les artisans ou contre l'architecte ou contre voilà. Donc ça c'est un point aussi important.
Ouais.
Dans la construction, on peut faire de l'autoconstruction et on peut faire de l'autoconstruction souvent seul. Parce qu'aujourd'hui, les kits qui sont faits permettent de travailler quelquefois seul ou à deux au maximum. En rénovation, ça peut être compliqué quelquefois de travailler seul. Bon. Donc, je vais aborder les aspects aussi donc sur la rénovation, des inconvénients de la rénovation. Et on finira sur les principaux avantages et pourquoi il faut s'orienter vers la rénovation. Mais le coût d'acquisition aujourd'hui en rénovation, Il est important. Si on va vers des biens qui sont en DPE, A, B ou C, évidemment, le prix va être aujourd'hui beaucoup plus élevé. Par contre, si on veut aller vers des biens qui sont des passoires thermiques, en allant vers des DPE qui sont F ou G, on va voir qu'on peut négocier les prix et qu'on peut avoir des biens à des prix très intéressants au mètre carré.
Ce qui permet de financer finalement cette rénovation quelque part.
Effectivement. Alors dans les inconvénients, on a la conception d'origine. Forcément, c'est pas le bien idéal qu'on aimerait. On n'a pas une grande pièce de vie. On n'a pas forcément dans ces biens anciens, on n'a pas forcément une disposition des pièces comme on le voudrait. Donc ça demande des adaptations, des aménagements. Il faut travailler sur le confort thermique, donc ça c'est aussi pas négligeable. Il y a des vis cachées quelquefois, d'humidité, on ne sait pas d'où elle vient. On peut être sur des terrains argileux, donc on le sait maintenant avec les dossiers qui nous sont remis à la vente. mais ça peut avoir des conséquences, on en a parlé tout à l'heure, on peut avoir des fuites aussi d'air, des mauvais calculs de portance. Moi j'ai vu ça, hein, j'étais dans l'immobilier où on avait prévu des combles perdus, on s'était dit un jour on les aménagera, mais sauf qu'on n'avait pas prévu sur la portance, sur les poutres qui avaient été mises, on n'avait pas prévu la bonne dimension, le bon dimensionnement, et du coup c'est pas du tout aménageable. Et puis on peut aussi avoir des polluants, je pense notamment au radon, qui peuvent aussi avoir un impact sur la qualité sanitaire du bien.
Ouais.
Donc ça fait partie des vis cachées, mais on a aussi certains coûts de travaux qu'on sous-estime souvent. Enfin, dans la rénovation, on a souvent tendance à... Alors c'est pas volontaire, hein, c'est-à-dire qu'on sous-estime le coût de cette rénovation, et du coup, on ne peut pas aller jusqu'au bout des travaux, souvent, la plupart du temps, et ce qui fait que...
Et les délais aussi, les coûts et les délais, oui.
Exactement, les délais, effectivement. Mm. Donc, attention aussi, je dirais, à l'achat de biens qui ont été réalisés en autoconstruction. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans l'immobilier, c'est qu'on va se retrouver quelquefois avec des malfaçons qui sont très compliquées à réparer. Mm. Et il n'y a pas de garantie là-dessus, sauf celle du propriétaire, hein, qui est garant pendant 10 ans de son bien, après la fin des travaux. Mais combien de propriétaires peuvent se permettre, souvent, quand ils vendent en dessous des 10 ans, c'est qu'il y a un problème de divorce ou il y a un problème familial. Mmh. Et du coup, ils n'ont pas les moyens de garantir les travaux qui ont été mal faits. Donc ça, c'est aussi une problématique à regarder aussi dans la rénovation, c'est des... Point. Mais par contre, de l'autre côté, on a quand même des avantages. Hein. On a une disponibilité de biens beaucoup plus importante, puisque on n'a pas à choisir le terrain, l'emplacement. Hein. On va pouvoir retrouver un peu plus de... Alors, je dis bien dans le cadre des DPE F et G, hein, parce que ça va être dans les années à venir ce qui va être le plus courant.
Ouais.
Par rapport donc à ce que je disais tout à l'heure, à son travail, sa santé, la santé, les loisirs, on va pouvoir choisir l'emplacement, le prix des passoires thermiques est plus facilement négociable aujourd'hui. Il y a aussi des possibilités d'extension, de surélévation, d'ajouter un garage, une dépendance, ce qui peut être intéressant aussi. On peut agrandir un bien, donc ça c'est aussi à regarder hein, dans le choix du bien. Le coût de rénovation, alors tu m'en parlais dans la question introductive là, mais voilà, on y arrive. Le coût de rénovation est souvent inférieur. Donc moi, des estimations que j'ai pu faire, des retours que je peux avoir aujourd'hui, en neuf, on est au strict minimum aujourd'hui à peu près à 2000 euros du mètre carré. Mm-hmm. Ça, c'est le strict minimum. Dans l'ancien, on arrivait à rénover, si on travaillait pas trop sur l'aspect thermique, encore quelques années, entre 700 et 800 euros du mètre carré. Aujourd'hui, avec l'aspect thermique, on est plutôt autour de 1200, 1500 euros du mètre carré. Donc okay. Ça reste quand même beaucoup plus compétitif. Mais à ça, il faut rajouter quand même le coût d'acquisition.
Donc, oui, bien sûr.
Mais on a quelque chose qu'on n'a pas dans le neuf et que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des aides financières, et notamment pour tout ce qui est rénovation thermique.
Donc les 1200, 1500 sont hors aide financière, finalement.
Exactement. Okay. Exactement. Donc il faut aussi prendre compte cet aspect-là, c'est qu'on peut bénéficier d'aides. Alors ça ne va pas jusqu'à 100%, mais si on prend... la prime rénov, si on rajoute des CE, si on rajoute un éco-PTZ, on peut arriver à 90-95% du financement. Donc ça peut être intéressant de regarder ça de très près, je dirais.
Et ici par exemple, parce que là, bon, y a énormément de choses que tu as citées là en aide, également des façons de faire, comment je peux passer de F à D finalement, ou à C éventuellement. Comment un particulier qui s'intéresse quand même à l'immobilier, mais finalement on reste un peu démuni face à ça, qui peut nous aider, enfin qui peut aider les personnes comme ça à faire quelque part un bilan financier et technique de ce qui est possible de faire. Vers qui on peut se tourner?
Alors sur le bilan financier, je vais te dire une chose qui va peut-être déranger certains, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'engager sur cet aspect-là, parce que ça, on l'a vu en 2021-2022, le prix des matériaux a doublé, voire triplé pour certains, et donc c'est compliqué de se projeter sur un coût au mètre carré. Donc c'est pour ça que je te donnais une fourchette, mais
oui, c'est voilà, une ça fourchette. Bouge beaucoup.
Mais par contre, où tu as raison de poser cette question, c'est que le diagnostic est extrêmement important. Alors, il y a le diagnostic qui est donné lors de la vente ou de la location, hein, qui est le DPE.
Bien sûr.
Mais celui-là, il suffit pas. C'est l'audit énergétique qui est extrêmement important. Alors, il est obligatoire, enfin, il sera obligatoire à partir du 1er mars 2023. Et ça, ça va être la base pour tout futur acquéreur, des travaux à réaliser.
Ah,
il va y avoir des recommandations, c'est-à-dire que cet audit-là va dire bah, le bâtiment est fait de telle et telle façon, il y a tel et tel désordre sur ce bâtiment, et donc il faut travailler sur telle et telle chose pour l'améliorer.
Mmh. Alors, ce qui donne des indices aux entreprises ou à l'architecte d'intérieur ou l'architecte tout court pour réaliser des travaux. Quoi.
Effectivement, c'est extrêmement important, sauf que les préconisations qui sont données là peuvent être très variables en fonction de l'auditeur. Et aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut faire appel à des auditeurs peut-être quelquefois externes, parce que les audits qui sont faits ne sont pas toujours de bonne qualité, parce que certains sont habitués à travailler avec des matériaux conventionnels, donc ils vont vous dire « mettez de la laine de verre partout, mettez voilà, telle et telle chose, tel et tel matériau, mais on ne va pas travailler sur l'impact carbone finalement des travaux qui vont être faits. » Donc, il y a aujourd'hui un réseau qui est en train de se développer, qui peut être intéressant de travailler, avec qui il peut être intéressant de travailler sur l'audit énergétique, ce sont les habitologues. Parce qu'eux vont avoir une vision sur l'habitat ancien notamment, ils vont avoir une vision globale du bâti, et ils vont proposer des solutions qui ne sont pas des solutions de rénovation globale, mais des solutions de rénovation qui vont impacter le moins possible sur l'environnement et être pertinentes en termes de consommation d'énergie après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 20% en gros du constat des travaux à réaliser, on peut réaliser 80% des économies d'énergie.
Donc,
c'est ce choix-là que vont faire les habitologues. Ils vont dire, il vaut mieux privilégier telle et telle chose. Par exemple, est-ce que l'isolation thermique extérieure est indispensable ? Sur une maison ancienne, hein, je parle. Hein. Est-ce que sur une maison ancienne, c'est indispensable ? Peut-être pas. Donc, peut-être travailler sur un isolant intérieur qui soit pas forcément très épais, mais qui va nous permettre de travailler sur la gestion de l'humidité, de travailler sur la gestion sur l'inertie du bâtiment, sur certains points qui font que on n'est pas obligé d'avoir une rénovation complète sur tous les points, mais il y a quelques points qui sont indispensables, comme la ventilation après, comme les fenêtres, etc., sur lesquels il faut travailler. Mais ils vont donner les solutions les plus pertinentes pour limiter les investissements et avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc voilà, c'est une idée que je peux donner effectivement d'auditeurs qui me semblent d'une bonne qualité pour travailler sur justement la rénovation thermique. Mais après, il y en a d'autres, hein, moi je les connais pas tous, mais en tout cas, eux, je connais la formation qui est faite derrière et je sais que c'est de très très bons niveaux.
Ok, bah merci pour cette indication, parce que c'est vrai que chaque spécialiste a sa façon de faire et qui n'est pas forcément, on va dire, en lien avec, comme tu as dit, l'environnement et puis la prise en compte aussi de la durabilité du bâtiment, quoi. Sur un temps long, sur la pérennité, en fait, prendre en compte ces éléments-là.
Tout à fait. Alors Cécile, je voulais aborder un dernier point qui est aussi intéressant dans la construction, c'est aujourd'hui, il y a d'autres types d'habitats.
Ouais.
Ce qu'on appelle les habitats alternatifs, hein, qui seront pour demain, à mon avis, certains des habitats à développer, et qui ont aussi un impact environnemental moins important que... Avant d'aborder ça, je dirais qu'il y a deux éléments aussi qu'il faut savoir, c'est que il faut travailler sur le collectif de plus en plus, puisqu'on doit densifier. Il faut qu'on travaille de plus en plus sur le collectif. Donc ça, c'est aujourd'hui, si on veut construire, il faut grouper au maximum. Ça, c'est malheureusement, c'est pas toujours apprécié de tout le monde, mais il y a des moyens de travailler, je vais l'expliquer après, là-dessus. Donc, densifier, ça veut dire aussi travailler sur le collectif. Et puis, travailler aussi sur des zones... en campagne, sur des éco-hameaux, sur des zones qui sont déjà reliées à des réseaux, Parce que la problématique, elle est là, hein, c'est que si on veut aller dans des zones agricoles, eh ben, on va se retrouver à devoir installer des réseaux électriques, de l'assainissement, etc. Donc, le téléphone. Donc, il faut travailler sur des lieux qui sont déjà existants et améliorer ces lieux-là. Donc, je pense que ça, c'est les deux points sur lesquels il faut travailler sur l'avenir. Alors, sur quel type d'habitat on peut travailler sur ce genre de stratégie pour l'avenir? Moi, je pense qu'il y a un des habitats qui a le plus en plus d'avenir, c'est les habitats légers. On parle beaucoup des tiny house, des yurts aussi. Les tiny house en fixe ou en mobile. Hein. Moi, je privilégierais plutôt le fixe, hein, pour plein de raisons, mais c'est un mode de vie qui va, à mon avis, s'inscrire dans le temps. Alors, pour des raisons financières évidentes, hein, parce que au mètre carré, ça coûte un peu plus cher, mais au final.
Du coup, là, on est plutôt effectivement sur l'individuel, sur la tiny house et la yurte. On est, enfin, comme ce sont des petits habitats, on est plutôt sur l'individuel.
Eh bien, on réduit son espace de vie et on peut tout à fait vivre dans une yurte à 4, dans une tiny house à 3. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a des gens qui l'ont prouvé. Alors, c'est vrai que c'est un rêve de liberté, un rêve d'évasion, qui peut être souvent illusoire parce que on s'aperçoit que les déplacer et trouver de nouveaux emplacements, c'est pas toujours facile, que ça a un impact aussi sur la biodiversité. On peut pas se mettre n'importe où, hein. Le choix des emplacements, il a aussi un engagement, hein. Donc et puis sur le besoin de raccordement, donc sur l'eau, sur l'énergie, sur l'assainissement, donc comment on va pouvoir jauger son autonomie. Ça, c'est aussi un impact pas négligeable sur l'environnement. Et puis, sur la réversibilité. Est-ce que on va pouvoir, si demain, ce terrain n'était plus habitable, est-ce qu'on peut déplacer son habitat? Donc ça, ce type d'habitat a aussi son intérêt de ce côté-là. Donc ça, c'est le premier type d'habitat. Le deuxième type d'habitat, qui est un gros comment dire, groupe, c'est l'éco-habitat. Je disais tout à l'heure qu'il faut aller vers du collectif. Et comment aller vers du collectif? Eh bien, il faut travailler sur des habitats groupés, sur des habitats partagés, participatifs. Donc, c'est la même chose, hein. Aujourd'hui, on appelle ça légalement des habitats participatifs. Donc, c'est des habitats où on va travailler ensemble sur la conception de l'habitat et de mettre en commun un certain nombre d'espaces, un certain nombre de biens, de façon à limiter son impact et son emprise sur l'environnement. Ça, je pense que c'est l'avenir, c'est ce qui se développe de plus en plus.
Oui, parce que finalement, avec ces habitats-là, on bénéficie de son espace privé, on va dire, et puis également, quelque part, un espace plus grand, mais qui est partagé et qui est finalement plus logique, dans le sens où il n'est pas tout le temps habité si on l'avait que pour soi. Donc, ce sont des habitats intelligents. Est-ce qu'en France, il y en a beaucoup, justement, de ces habitats-là?
Alors, les habitats groupés se développent beaucoup parce que maintenant, il y a des structures associatives qui permettent d'accompagner. Il y a aussi des professionnels qui sont là aussi pour accompagner ces projets. Il y a un problème social derrière tout ça. Hein. Il y a quand même un problème d'acceptabilité, un problème aussi de gouvernance de ce type d'habitat.
Oui, c'est aussi changer les mentalités, mais plutôt d'état d'esprit et apprendre à vivre plus ensemble.
Donc, il faut travailler sur des formations collectives qui vont faciliter la gouvernance de ce type de lieu. Et dans le même type d'habitat comme ça collectif, on a aussi donc les éco-hameaux. Alors, eux, ils sont plus indépendants. Un habitat groupé, puisqu'un habitat groupé, c'est un même bâtiment, souvent, qu'on va rénover ou qu'on va faire construire. Les éco-hameaux, c'est plutôt un hameau qu'on va rénover, un hameau abandonné avec des granges, avec différents types d'habitats qu'on peut réhabiliter. Ces éco-hameaux vont être réhabilités de façon écologique, en choisissant des matériaux ressourcés, en choisissant aussi de travailler sur l'autonomie. Donc ça, on pourra en reparler, l'autonomie, mais c'est aussi un sujet dans la résilience aujourd'hui. Et le dernier type de lieu qui se développe aussi, qui est aussi sur le principe des éco-hameaux, mais qui va aussi intégrer un aspect économique, hein, ce sont les éco-lieux, qu'on appelle aussi les oasis. Hein, ces éco-lieux-là vont aussi intégrer un paramètre économique qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des activités autour de ces éco-lieux. Là, la principale, celle qu'on connaît le plus, c'est l'activité agricole, maraîchère le plus souvent. Donc ces écolieux-là sont aussi des lieux qui vont impacter le moins possible sur l'environnement, parce qu'on va souvent travailler sur des rénovations, on va peut-être construire, mais de façon souvent plus écologique, et on va construire en commun, on va travailler ensemble sur le projet et de faire en sorte que ces habitats-là soient aussi à la fois le moins impactant possible et pourquoi pas réversible pour certains. Donc ça, ce sont les habitats qui, à mon avis, vont être amenés à de plus en plus se développer. Le réseau Oasis explose. Il y a maintenant un millier de projets en cours, je crois, entre les habitats groupés et les écolieux. Donc, et il y a encore un potentiel énorme sur toute la France. On peut changer complètement le sens de sa vie et se dire, moi, j'en ai marre de travailler dans un bureau dans une grande ville. J'ai envie de faire autre chose. J'ai des compétences sur certains sujets. J'ai envie de transmettre. Pourquoi pas aller s'inscrire dans un projet d'écolieux. Et deux autres petites choses qui sont intéressantes à travailler aussi pour l'avenir, ce sont les bails réels solidaires. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
Non.
Le bail réel solidaire, c'est la possibilité d'acquérir un appartement, un bien, donc un appartement ou une maison, en dissociant le terrain. Alors, ce sont souvent des logements sociaux, enfin des bailleurs sociaux, pardon, qui mettent en place ce type de bail. Et ça permet de limiter le coût foncier sur l'achat, sur l'acquisition. Et donc, on peut du coup réaliser des biens qui ont de meilleures performances énergétiques, puisqu'on va limiter un petit peu aussi l'impact de ce côté-là. Le dernier point, c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent, et qu'il y a beaucoup de logements sociaux en France, et notamment beaucoup d'habitats individuels. Certains ont maintenant 20, 30, 40 ans et se retrouvent sur le marché. Et ces biens-là sont des biens qui sont pas chers, qui ont pour certains beaucoup de travaux à faire en termes de rénovation énergétique. Mais là, on a un potentiel intéressant aussi. Juste en aparté, on a plein d'articles à ce niveau-là sur la réglementation, sur les différents modes d'habitat, sur Build Green. On peut retrouver pas mal de choses là-dessus, pas mal d'indices.
Ouais, c'est très riche et bien documenté.
Oui, tout à fait. On essaye de mettre le plus de sources possibles aussi pour pouvoir avancer dans son projet. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de pistes comme ça sur le site de Bilpay.
Yes, super. Merci Pascal. Moi, j'ai deux dernières questions pour toi.
Oui.
J'aime bien poser cette question parce que finalement on n'a pas la science infuse, puis on n'est pas Madame Irma, Madame Soleil, et on a du mal à se projeter finalement dans le futur. On sait jamais ce qui va arriver, mais bon, prêtons-nous à l'exercice. Imaginons, là je pose ma boule de cristal sur entre nous. Qu'est-ce que toi tu vois pour 2050, ou même c'est peut-être un rêve, une projection, ça serait quoi pour toi l'idéal pour 2050 justement? Tu parlais de ces habitats alternatifs qui se développent beaucoup, est-ce que ça pourrait être une norme finalement?
Que ça soit une norme, ça sera compliqué, je pense que c'est une piste, il y a beaucoup de pistes à prendre. C'est pour ça que je donnais tous ces habitats alternatifs, hein. Il y en a même d'autres encore. Je pense pas que on est comme pour l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se pose la question quelle va être l'énergie de demain. Certains pensent que ça va être le nucléaire, d'autres disent que c'est un mix énergétique et qu'il faut multiplier les sources. Et moi, je suis plutôt cet avis-là pour l'habitat. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Une chose est sûre, c'est qu'on construira de moins en moins. Ça, c'est inévitable. Pour le problématique que j'ai énoncé dès le départ, hein, le manque de ressources, le manque de foncier, la réglementation, fait que demain, on va construire de moins en moins. Bon, ça, c'est un fait. Alors, il faudra mieux construire, donc ça veut dire que ces bâtiments, comme je l'ai indiqué, il faut qu'ils soient réalisés sous forme participative. Je pense que c'est là où on a un gros travail à faire. Arrêtons de faire du collectif pour du collectif et essayons de travailler un petit peu plus la mutualisation du bien. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin tous d'une quatrième chambre, une troisième ou quatrième chambre? Non, on peut en avoir une qui est disponible dans l'immeuble et qui va servir ponctuellement. Alors c'est malheureusement toujours à Noël qu'elle va servir, mais bon, c'est un peu le problème. Mais voilà, il y a des choses comme ça. On peut faire aussi des cuisines collectives, on peut faire aussi des lingerie collective. Voilà,
on peut potager,
le potager, alors tout effectivement, tout ce qui est à travailler autour de l'autonomie. Il va falloir travailler la résilience. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler de plus en plus parce que on va avoir de plus en plus de crises sanitaires. Ça, c'est malheureusement inévitable. Ce qu'on a vécu avec le Covid va revenir. On en aura d'autres. Donc, il va falloir qu'on soit de plus en plus résilient. On va avoir un problème de pétrole aussi, et on va avoir des difficultés à fournir toutes les villes. L'alimentation va être de plus en plus chère. Donc, il va falloir trouver des solutions d'être de plus en plus autonome et résilient. Donc, tu as raison de parler de potager. Donc, ça, c'est à travailler aussi dans l'habitat participatif. Moi, j'avais fait j'ai un très bon exemple dans le Bill Green Tour que j'ai fait l'année dernière. Un très bel exemple à côté d'Angers d'un habitat participatif où ils ont prévu tous ces éléments-là. Donc, il y a des choses à faire autour du participatif, autour de la mutualisation des biens, mais pas seulement à l'échelle d'un bâtiment. On peut aussi le faire à l'échelle d'un quartier. Pourquoi pas travailler les réseaux de chaleur aussi, travailler un peu plus, parce que c'est vrai que, comme je le dis, l'énergie va être un problème dans les années à venir. Les réseaux de chaleur, ça veut dire mutualiser aussi le chauffage, soit à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville.
Une ville, ouais, tout à fait.
Tout à fait. Donc on peut effectivement travailler de ce côté-là, travailler aussi sur ce qu'on appelle aussi l'autonomie partagée, l'énergie partagée. C'est travailler à l'échelle d'une collectivité, donc ça peut être une communauté de communes, qui va investir dans des panneaux photovoltaïques, dans des éoliennes, dans des méthaniseurs, dans tout un tas d'autres énergies alternatives, aussi tout ce qui est hydroélectricité. On peut faire des mini-centrales hydroélectriques qui peuvent générer quelques mégawatts et donc limiter le besoin en énergie aussi extérieure. Donc il faut qu'on joue aussi beaucoup sur cet aspect-là, l'énergie. Dans l'habitat de demain, l'énergie va être extrêmement... un point crucial dans les années à venir, puisque, bon, évidemment, si on les conçoit de façon à ce qu'ils consomment le moins possible, c'est l'idéal, mais malheureusement, il y a encore beaucoup trop de bâtiments. On dit qu'il y a 7 millions de passoires énergétiques en France, il y a encore beaucoup trop de bâtiments qu'il faut rénover et tout le monde ne pourra pas le faire, donc il faut qu'on réduise quand même notre impact énergétique. Enfin, notre consommation d'énergie, parce qu'on va manquer de ressources. Et donc, c'est aussi un travail à faire dans les années à venir. Donc, il y a beaucoup de pistes. Je pense qu'il ne faut pas le faire à l'échelle uniquement nationale. Il faut travailler à l'échelle territoriale. C'est vraiment là où il y a des choses à faire. C'est les territoires qui doivent, en fonction de l'environnement, par exemple, dans un environnement de montagne, on va pas avoir les mêmes contraintes que au bord de la mer. Au bord de la mer, on peut travailler sur certains types d'énergie qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Donc on doit pouvoir travailler à l'échelle territoriale et non pas centraliser comme on veut faire aujourd'hui avec le nucléaire, tout centraliser et finalement se retrouver quand ces centrales ont des problématiques avec un manque d'énergie énorme, alors que si on avait travaillé au niveau de la collectivité, on sera adapté et on n'aura plus de lockout. C'est plus possible ça sera très rare parce que on aura travaillé toutes les sources possibles d'énergie et on se retrouvera donc avec des habitats qui seront raccordés à l'électricité ou à d'autres sources d'énergie comme les réseaux de chaleur. Donc il y a un gros travail à faire au niveau des collectivités. Je pense que c'est là le vrai travail. Et pour ça, ça demande de la formation, ça demande de l'information, ça demande des aides aussi pour ces collectivités, parce qu'il faut du conseil, il faut des gens compétents pour pouvoir assister ces élus. Mais c'est là qu'il faut travailler, je pense.
Ouais. Oui, donc en fait, finalement, c'est décentralisé, mais à la fois désindividualisé. Donc revenir quelque part à une échelle plus humaine, plus où le dialogue peut se faire plus facilement et là où, là, justement, ensemble, des solutions peuvent émerger et vraiment être plus durables et pérennes dans le temps.
Exactement. Mmh.
Super. Est-ce que aussi également tu peux te prêter au jeu de nous donner, alors il y a eu pas mal de références dans tout ce qu'on a vu pendant cette émission, deux références en fait sur des œuvres ou des personnes qui toi t'ont inspiré dans ton parcours et que tu voudrais aujourd'hui partager justement pour inspirer d'autres personnes à ton tour.
Alors, il y en a beaucoup qui m'inspirent, hein, parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, qui regarde beaucoup de vidéos, qui lit beaucoup de livres. Enfin, je m'intéresse à beaucoup de sujets. Bon, on coûte toujours autour de l'habitat et de l'énergie, mais moi, mon principal inspirateur, c'est assez connu pour les gens qui me connaissent, c'est Claude Lefrançois. Donc, Claude Lefrançois m'a beaucoup appris sur la problématique du confort thermique, notamment de l'habitat, et de la pertinence écologique d'un habitat. Et donc, c'est vraiment mon principal inspirateur. Il y a deux livres qu'il faut absolument avoir pour vous si vous voulez en savoir plus. C'est Maison écologique, construire ou rénover. Donc ça, c'est le livre à avoir. On est sur le sujet qu'on a vu aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment
Pour aller creuser encore un peu plus. Ouais.
Effectivement. Et si on veut travailler sur le confort thermique, Claude a aussi sorti un livre issu des articles qui ont été écrits sur Bill Green, Le confort thermique écologique. Donc ça, ce sont deux livres à avoir absolument dans sa bibliothèque si on a un projet. Mais j'ai d'autres inspirateurs. Je vais quand même donner quelques noms parce que il y a des gens qui sont extrêmement passionnants. Je voyais encore, et je ne l'ai pas rajouté, mais je voyais Arthur Keller hier soir, une vidéo qui est un ingénieur qui travaille sur la systémique. C'est extrêmement passionnant ce qu'il peut dire. Allez voir ses vidéos. Philippe Biwix aussi, qui est quelqu'un qui est très inspirant aussi, qui lui oriente vers les low-tech avec son livre L'âge des low-tech, c'est-à-dire réduire son impact. Comment réduire son impact environnemental via la technologie, hein. C'est un très bon inspirateur, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est un grand architecte qui a écrit beaucoup de livres, dont Mieux avec moins, c'est Philippe Madec. Donc il faut lire ce livre aussi. Et si on cherche à aller un petit peu plus loin dans l'isolation écologique avec le choix des matériaux et leur impact environnemental, c'est Jean-Pierre Oliva qui a écrit l'isolation écologique, hein. C'est une référence qui existe depuis une vingtaine d'années. Alors Jean-Pierre Oliva est décédé depuis, mais le livre est encore trouvable d'occasion, on peut encore le trouver, mais la plupart du temps les gens veulent le garder, ce livre-là, donc c'est
pas ça devient un bien rare.
Voilà, tout à fait. Voilà quelques-unes de mes sources, mais j'en ai plein d'autres. Mais voilà, Claude Lefrançois, Philippe Madec, Philippe Biwix, Monsieur Keller, Jean-Pierre Oliva, voilà, ce sont des références pour moi, et il y en a d'autres.
Super, merci. C'était pour ce retour très riche. Et puis, on mettra aussi le lien vers Bill Green pour justement aller explorer tout ça. J'imagine que les références reviennent assez souvent. Et puis, merci beaucoup, Pascal, pour cet exposé et puis surtout cette richesse du contexte entre construire et rénover. Je pense que ça a donné vraiment, vraiment beaucoup de pistes et puis surtout de l'information pour les personnes qui n'étaient pas du tout dans le contexte. Je te souhaite de belles aventures pour Bill Green et puis je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Cécile, en tout cas, pour m'avoir donné la parole sur ce sujet qui est pour moi extrêmement important. Et le choix est primordial au départ quand on a un projet, construire ou rénover, et connaître tous ces éléments, ça me semble intéressant avant de se projeter.
Merci, Pascal.
Merci, bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce tout premier épisode. Épisode riche et assez long, je vous l'accorde, mais comme vous le savez désormais, le sujet est complexe et la réponse à la question « construire ou rénover » n'est pas si tranchée. Habitat Futur est un podcast indépendant, alors si vous souhaitez le soutenir, c'est simple. Abonnez-vous dès maintenant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt !